Hier, j'ai évoqué la preuve par la communauté en expliquant que c'est la composition de cette communauté justifiait aussi le propos de Paul sur la conduite illogique à vue humaine de Dieu. Et j'avais terminé en particulier sur ce verset 28. Paul reprend tout ce que Dieu a choisi, le fou, le faible, de son essence, il ajoute ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. Et j'avais suggéré qu'il fallait peut-être voir derrière cette expression ce qui n'est pas une sorte de compréhension plus générale du païen aux yeux des juifs. Afin qu'aucune chair n'ait se glorifié devant Dieu, je vais terminer en vous rappelant que la gloire est un attribut de Dieu, un attribut propre. Toute créature humaine ne peut obtenir que par participation. Alors le propos se termine au verset 30. C'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption, afin que comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. L'opposition est claire, c'est par lui que on ne pourrait pas se dire c'est par lui que vous êtes. Si vous êtes quelque chose, vous ne l'êtes que dans le Christ Jésus, par rapport à ce qui n'est pas. Paul vient d'évoquer ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. C'est par lui, Dieu, que vous êtes dans le Christ Jésus. Je veux dire, on peut presque entendre que l'existence humaine, l'homme n'a vraiment d'existence, évidemment pour lui d'existence religieuse, que dans le Christ Jésus. C'est donc lui, et c'est une sorte de conclusion, c'est donc lui, le Christ, qui est cette sagesse venant de Dieu, il est justice, sanctification et rédemption. Cette accumulation de termes, de qualifications attribuées au Christ, je ne sais pas trop quelle justification est là. Chaque mot, je peux le comprendre. Le Christ est donc sagesse de Dieu, il nous l'a dit, il est justice en tant que il est celui qui rend justice à Dieu, qui rend juste les hommes. Justice et justification, chez Paul, souvent partie liée. Il est sanctification dans la mesure où c'est effectivement en lui que l'on trouve la sainteté. Jusqu'à maintenant, c'était dans la loi. La sanctification, comme la justification, venait de la loi. Désormais, c'est dans le Christ Jésus que vient cette sanctification. C'est en restant en lui, je vous avais parlé de l'hypomonaie l'autre jour, le fait de rester sous, de persévérer. C'est en lui que s'acquiert cette sainteté, si chère à la tradition sacerdotale, et en particulier au Lévitique, chapitre 19, « Soyez saints comme je suis saint », début du chapitre 19, du Lévitique, une thématique qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les évangiles, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Bon, cette sanctification s'obtient aussi dans le Christ Jésus. Et rédemption, parce que de fait, c'est par sa mort sur la croix, il nous a rachetés. En entendant ces trois mots, justice, sanctification, rédemption, enfin il nous a rachetés du péché, en entendant ces trois mots, j'entends aussi en écho ce qui est dit au chapitre 3 de la lettre aux Romains, versets 21 à 26, qui est un passage ardu. Je vous lis le passage de Romains 3, qui n'est pas beaucoup plus clair, mais qui de fait fait écho à celui que nous venons d'entendre ici. « Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. » Et si je continue, c'est encore pire, c'est-à-dire d'un point de vue de l'expression, c'est difficile. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi, Il voulait les montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Bon, si un jour vous voulez faire un commentaire sur ce passage, je vous souhaite du plaisir. En tout cas, c'est sûr qu'à travers les thématiques, vous entendez un écho de ce qui est la justice, sanctification, rédemption, tout ce qui s'obtient désormais dans le Christ Jésus. Et donc, puisque tout s'obtient dans le Christ Jésus, celui qui se glorifie dans le Seigneur, c'est aussi vous avez aussi un écho Romains 4, je crois 2, quelque chose comme ça, Romains 4, il me semble que c'est Romains 4, 2. Je fais un peu de mémoire. Non, c'est Romains 2. Si Abraham tient sa justice des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non au regard de Dieu. Bon. Donc c'était tout ceci la preuve par la communauté qui doit toute à son appel par Dieu dans le Christ Jésus. Il y a maintenant une autre preuve que Paul va développer. Bon, ça commence au chapitre 2, mais ça se lit au précédent. Je vais dire ce chapitre 2. Donc c'est ce que le début du chapitre 2, je dirais, c'est la preuve par Paul lui-même. Bon, je vous lis le chapitre 2 qui est important et vous allez avoir un terme qui, j'espère, va vous frapper. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frère, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc vous avez noté les « je », « moi », etc. déjà ici. Ensuite, je continue. « Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il avait connu, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. » Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est une deuxième partie sur laquelle je reviendrai. La troisième, là je vais insister sur un mot qui évidemment apparaît, qui est extrêmement important. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sent de tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc, entre les hommes, sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Nous en parlons non avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'esprit de Dieu, c'est folie pour lui, il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne, qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire, et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Je pense que vous avez remarqué l'insistance ici sur l'esprit. Là aussi, ce n'est pas tout à fait sans évoquer un autre passage de Romains, qui a décidément beaucoup d'acquaintance, Romains 8, qui est le grand chapitre sur l'esprit. Donc nous avons en gros effectivement trois parties, ça représente dans ma Bible trois paragraphes. La première partie, donc, qui est marquée par les « je », les « moi », qui évoque ce que fut l'attitude de Paul dès le départ parmi les Corinthiens. Donc c'est ce que j'avais parlé de la preuve par la communauté, il y a la preuve par Paul lui-même. Paul va souligner que la manière dont il s'est présenté, dont il a toujours vécu parmi les Corinthiens, est tout à fait conforme à la logique de la croix, au logos tousteroujou dont j'ai déjà parlé. Donc, souligne même, ça fait presque un titre de gloire, je veux dire, qu'il n'avait ni le prestige de la parole, ni celui de la sagesse. Quand il dit « je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », ce n'est pas seulement qu'il veut dire qu'il n'a parlé que de cela, mais il veut dire aussi que la manière même dont il a parlé, je veux dire pas seulement le contenu, mais la forme même, enfin, était marquée par cette logique du crucifié. Et c'est ce qu'il nous dit aussi qu'après, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Qu'est-ce qu'il y a sans doute derrière? Est-ce qu'il faut prendre ces choses-là au pied de la lettre? Ce qu'il y a sans doute derrière, c'est qu'il y a une controverse. On le sait. Certains se réclament de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres, etc. Il y a toujours cela derrière. Donc, on essaye de mettre en valeur son héros. Son héros. Et évidemment, pour le mettre en valeur, on va essayer de mettre en valeur ses qualités, en particulier ses qualités d'expression, d'attitude. Comme disent les enfants, mon papa est plus fort que ton papa à toi. Il est grand, costaud, c'est mon papa à moi. Bon, vous voyez ce qu'on veut dire, ils ont peut-être pas tout fait le même âge, les Corinthiens, mais enfin, bon, on lui dira tout à l'heure qu'ils sont quand même des enfants dans la foi et tout ça. Donc, il y a quelque chose comme ça. Des attitudes un peu infantiles. Donc voilà, alors, et Paul, insiste. Le fait que ses qualités, eh bien, les a-t-il pas? En tout cas, il y a renoncé, d'une certaine manière. On est quand même tenté de penser qu'il en a quelques-unes. D'abord, parce que les gens se sont prévalus de lui, donc c'est pas leur héros quand même, il fallait qu'il ait quelque chose à se mettre sous la dent pour le défendre. Donc, il y a complètement un aspect... comment dirais-je, apologétique. Compte tenu des circonstances, il faut souligner cette dimension faible et en presque sans prévaloir. Bon, elle est sûrement quelque peu exagérée. Paul a certainement voulu rester conforme à l'exigence de la logique de la croix. Donc faible, craintif et tout tremblant, oui, sans doute. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. Bon, parce que c'est sans doute, effectivement, il insiste, c'est ce qui lui est reproché. Pour qu'il en parle comme ça, c'est ce qui lui est reproché. Ses adversaires devaient dire, Paul, que ça s'est dit ailleurs, je ne sais plus où d'ailleurs, ça m'échappe pour le moment, la mémoire me fait défaut, comme souvent, ton Paul, il n'est pas terrible. On devait le... Bah si, c'est toujours présent à 1 Corinthiens. Lorsqu'il est présent, il est chétif et nul. Lorsqu'il est absent, il est rigoureux. Mais lorsqu'il est présent, il est chétif et nul. Il y a ça. Je pense que quand même, il y avait une part de vérité. Il y a une part, sans doute un peu d'exagération, mais il y a une part de vérité. Je ne sais pas quel était le tempérament de Paul. Est-ce qu'il était timide? C'est difficile de faire un portrait humain de Paul, oui.
Mais aussi dans les épîtres, enfin, il est souvent, je ne sais pas, mais il est souvent malade.
Oui.
Et puis là, la communauté m'a peut-être déposé
sa santé. À Galates, par exemple.
Ou alors, ici, vous m'avez...
Oui, soutenu et tout ça.
Et
oui, oui. Oui, oui, puis il y a son fameux...
Cette physique.
Oui, oui. Il y a sa fameuse épreuve dans la chair, là, qui est exprimée aussi, c'est en 2 Corinthiens, ça. Oui, il est malade, mais n'empêche que quand vous regardez le nombre de kilomètres qu'il a fait, quand vous regardez ce qu'il a subi, qu'il évoque en 2 Corinthiens 11, les brigands, les trucs, machin, les fous et les machins et tout, en fait, il y a quand même de la résistance. Bon, en fait, de temps en temps, vous savez, on dit chez nous, dans nos communautés, que ce sont les frères les plus fragiles qui tiennent le plus longtemps. Ça arrive souvent, c'est-à-dire que, vous voyez, on se dit, oh là là, et puis c'est cela qui nous enterre, on dit ça aussi. Et bon, je crois qu'il y avait, parce que c'est souvent ça, chez ces gens-là, il y a aussi une volonté. Une volonté terrible pour résister et du coup finalement pour tenir. Voilà, alors ça cette volonté, je suis tout prêt à croire qu'elle était chez Paul. Hein. De même qu'elle était chez les grands saints, je crois que ça s'intéresse à Dieu et tout ça. C'est d'abord des volontés, des volontés de faire, ça c'est clair. Oui, c'est possible qu'il y ait une dimension d'asthénie, oui.
Aujourd'hui,
quelques
temps,
elle n'avait
pas
l'air. Absolument. Non, non. Non, non. Oui, oui. Ah non, mais il y a, chez tous ces gens, c'est sûr, il y a une dimension volontaire qui est extrêmement prégnante, hein, et qui... qui les fait tenir, ça ne suffit pas, à mon avis. Mais enfin, bon. Alors, je ne sais pas exactement, bon, là. Bon, enfin, Paul dit, je me suis présenté à vous faible. Faible, ça doit être Asténès, quelque chose comme ça, ici. C'est verset combien ? 3. Oui, elle, Asténégar, c'est ça, dans la faiblesse. Je me suis présenté à vous dans la faiblesse. Et cette Asténégar, en général, c'est la faiblesse physique. Hein. Bon, mais. Donc, pour Paul, il y a certainement une réalité. Je veux dire, une réalité d'une dimension de faiblesse, ce qui nous reste toujours inconnu. Vous savez, sa fameuse écharpe dans la chair, qu'il évoque en 2 Corinthiens, nul n'a jamais su de quoi il s'agissait. Hein. L'explication la plus commune, c'est celle d'une forme d'épilepsie. Mais on n'en sait rien. Objectivement, on n'en sait rien. Donc il y a certainement quand même une dimension de faiblesse. Parce qu'il n'aurait quand même pas parlé de cette écharpe dans la chair s'il n'y avait pas eu quelque chose, quand même. Donc on peut assurer que Paul avait certainement une volonté de faire, mais aussi une santé, à certains égards, qui pouvait être fragile. Mais en même temps, il y a une volonté, donc encore je le dis, d'assumer pleinement la logique de la croix. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Bon, cela dit, encore une fois, il y a une autre ambiguïté, c'est qu'il nous dit que mon discours n'avait rien de la persuasion que donne la sagesse. N'empêche encore une fois que la manière dont il s'exprime ici est tout à fait remarquable. Je voulais faire remarquer à plusieurs passages. Donc on m'a dit, c'est vrai, il y a son éducation qui ressort, il peut dire plus que ce qu'il a l'intention de dire, grâce à l'Esprit Saint qui parle en lui, certes. Mais enfin quand même, il y a une habileté, qu'on ne trouve pas seulement ici, enfin qu'on trouve aussi dans l'être romain, dans beaucoup d'autres lettres, il y a quand même une qualité d'expression, une habileté, qui n'est pas attribuable au secrétaire. Et eux, ils se contentent de recopier. Alors, je signale que Murphy O'Connor, dont j'ai déjà parlé dans l'ouvrage sur le style des lettres, là, sur les lettres, dit que dans les lettres de Paul, on néglige peut-être trop la part des co-expéditeurs. Ici, c'est Sosthène qui a écrit avec Paul au départ, qui est mentionné. Et Murphy O'Connor pose cette question, qui est une bonne question, qui n'a pas trouvé vraiment de réponse définitive. Est-ce que c'est simplement, bon, dire « je suis avec » Sosthène, par exemple, « je suis avec Sylvain et Timothée », simplement « je suis avec eux » pour le signaler, ou bien s'ils sont mentionnés quand même, non seulement, il ne dit pas seulement, mais c'est Paul et Sosthène qui écrivent, Paul et Sylvain et Timothée, etc. Est-ce que ces co-expéditeurs n'ont pas joué un rôle aussi important dans la rédaction des lettres? C'est une question, hein, ça révolutionne beaucoup de choses, si c'est le cas. Du coup, ça veut dire que le style des lettres, qu'on dit souvent le style de Paul, à travers ces lettres, c'est peut-être pas seulement le style de Paul, justement, oui.
Mais étant donné que Paul avait toute une variété de différents collègues, de différentes lettres, si ses collègues avaient un rôle important dans ses lettres, on trouverait des énormes variétés de styles entre lettres. Est-ce que ça se trouve?
C'est assez vrai, c'est une bonne objection. Murphy O'Connor, dans son ouvrage dont je parle, là sur les... que je vous ai signalé, dit que l'indice de l'intervention des collaborateurs de Paul dans les lettres pourrait être certains passages en changement de pronom personnel. Nous, il dit, il y a des apparitions de nous, il y a du jeu, là, il y a un jeu, où il parle de la faiblesse, ici, nous sommes dans le jeu et le moi-même, hein, je n'ai rien, moi-même, bon. Il dit, il y a de temps en temps des éruptions de passage en nous, alors, bien circonscrit à l'intérieur d'un certain nombre de lettres, qui pourrait être l'indice de l'intervention des co-expéditeurs. Donc, c'est vrai que le style général, global, est celui de Paul, mais il y a un certain nombre de passages en nous, qu'il essaie de recenser, d'ailleurs, si je me souviens bien dans son ouvrage, qui pourrait être l'indice de... Oui.
Mais même là, il se pose la question, dans le grec de l'époque, est-ce qu'il y avait... c'était normal qu'on écrive peut-être comme le pape ou les rois, ou...
La question se pose, c'est une bonne question encore une fois, et je ne me souviens plus comment il répond Murphy O'Connor dans l'ouvrage dont j'ai parlé, j'ai plus la référence en tête là, mais je vous l'ai signalé. Oui, il dit c'est différent. Voilà. Bon, c'est... Oui.
Peut-être encore.
Ouais.
Souvent, il y a des gens qui parlent facilement mais ont du mal à écrire, ou alors écrivent facilement mais ont du mal à parler.
Exact.
Et que ce serait peut-être le cas chez lui quand, parce qu'à un moment donné, on lui reproche, donc, ouais. Il avait signalé, d'être très vigoureux dans ses lettres,
ouais.
Et puis quand il est là, d'être beaucoup moins vigoureux,
ouais.
par l'apparence physique, peut-être ouais. par le style oratoire aussi.
C'est pour ça que j'avais évoqué sa timidité tout à l'heure. Hein. C'était un peu dans cet esprit-là que j'ai fait exprès, un peu de manière percutante. En disant qu'il était peut-être timide. C'est pas impossible, en fait, il faut pas... moi j'aime beaucoup Saint-Paul, j'espère que vous l'aimerez comme moi, mais il n'a pas toutes les vertus, toutes les qualités, toutes les puissances, et tout. Donc il faut le prendre aussi comme un homme, hein, qui encore une fois avait une volonté, qui avait été certainement hors du commun, qui a ses forces et ses faiblesses, hein, incontestablement. Sinon, il n'y aurait pas eu de raison que d'autres choisissent Apollos ou choisissent Pierre, puisque si Paul avait toutes les qualités, ils avaient qu'à se réclamer tous de Paul. Hein. Manifestement, il n'a pas tout. Et puis par moments, il est un peu brusque, et puis etc. Enfin, et puis vous savez aussi, il y a un côté intuitif. Alors de temps en temps, ça fuse, et puis on n'a pas le temps de suivre. Enfin bon, moi je me dis, c'est déjà difficile pour nous, qu'est-ce que ça devait être pour les pauvres gens de l'époque. Il devait avoir du mal à suivre la pensée par moment. Bon. Donc voilà, il y a tout ça. Non, c'est intéressant de temps en temps de s'imaginer pas. Parce qu'en plus, vous savez, je suis sûr, on est quand même conditionné par une certaine présentation qu'on fait les gens de lui, et aussi par une sorte de présentation iconographique. Je sais pas, je crois que ça peut jouer à certains moments aussi. Hein. Enfin, on le voit le front dégagé à la Giscard d'Estaing, vous savez. C'est tout est là-dedans, quoi, tout est dans la tête. Bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le cœur, chez lui, manifestement. En général, lui, il avait un gros cœur. On vous reconnaît surtout. C'est vraiment le front à la Giscard d'Estaing, ça, c'est vrai. Ou c'est Giscard d'Estaing qui a un front à la Saint-Paul, je ne sais pas comment il faut dire. Mais. C'est un peu ça. Alors on est une image un peu hiératique, un peu figée, vous voyez, facilement. Mais c'est un personnage complexe. Hein. Donc en tout cas, il a voulu lui-même respecter le logos de la croix, le logos Musdaolo. Et il le dit, et ça c'est important, parce que vous voyez arriver le mot esprit ici, c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Et il associe les deux, évidemment. C'est ce qu'il va développer. En quelque sorte, il annonce les versets 10 et suivants. C'était une démonstration d'esprit et de puissance. Il nous dit que, il était comme il était, très bien, avec les faiblesses éventuelles dont on vient de parler. Qu'est-ce qui permet de comprendre et de lire? Qu'est-ce que ça cherche à mettre au premier plan? C'est l'esprit, qui est en même temps puissance. Et il va, alors, bon, on est là, on est mis en appétit, une démonstration d'esprit et de puissance. Il va dire ensuite quel rôle ça joue un peu plus loin. Ça, il fait ça souvent, Paul, il annonce en quelque sorte, quelques versets à l'avance, des choses qu'il dira plus loin. C'était une démonstration d'esprit de puissance, donc, pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bon, donc voilà, il s'est mis en cause lui-même, expliquant comment il s'est présenté, et pourquoi il s'est présenté comme il s'est présenté. Il y a peut-être une dimension, je vous dis, de psychologie, d'humanité personnelle, et une dimension aussi de volonté, d'être conforme à la logique de la croix. Alors il revient quand même sur cette sagesse. Chez Paul, ne vous étonnez pas, il n'y a pas une continuité toujours absolue de la pensée, ça va, ça vient, ça couille. Je vous ai parlé tout à l'heure, je disais, c'est un intuitif un peu. Je le crois, je me retrouve assez bien chez lui, c'est pour ça. Donc il a tout à coup une idée, ça vient, il commence à l'annoncer, puis tout à coup il se dit, vous voyez ça. Bon, c'est pas un raisonnement à la Saint-Thomas. Hein. C'est pas la somme théologique. Enfin, ça va, ça vient. Bon. Donc là, il revient sur cette sagesse qu'il a déjà évoquée. Maintenant, il va préciser. Il va en parler en termes de mystère, en termes de quelque chose de caché, de dévoilement. C'est un langage complètement apocalyptique là. Je vous ai dit qu'à certains moments, Paul faisait des emprunts apocalyptiques, des emprunts simplement. Et donc, dans ces versets 6-9, on a un peu l'impression que Paul situe la sagesse de Dieu dans le cadre de toutes les sagesses qui ont cours à Corinthe. Il avait évoqué d'une manière générale la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Je vous avais dit un peu hein, comme une sorte un peu de procès entre Dieu et le monde. Et maintenant il va, ça fait presque un retour en arrière, mais enfin bon, il revient sur ce thème de la sagesse pour la situer dans le cadre des sagesses de l'époque, de celles que connaissent les Corinthiens. Et je vous dis, il y avait à l'époque, dans la Corinthe, beaucoup de cultes, beaucoup. Et parmi ces cultes, de ce qu'on appelle les religions à mystère, avec des initiations, des catéchumènes en quelque sorte qui étaient initiés. Donc, ces religions, manière vocabulaire, on est initié, ça veut dire que le mystère ne nous est dévoilé que peu à peu, etc. Alors tout à coup, c'est comme s'il avait oublié de dire, cette sagesse, elle a aussi cette dimension-là, la sagesse de Dieu. Elle est à la fois complètement différente de toutes les autres sagesses, et en même temps, elle participe de l'esprit commun de toutes ces sagesses. Donc c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits. Déjà, l'expression est étonnante, parce que Paul soulignera ensuite l'imperfection des Corinthiens, mais il dira, c'est de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, c'est-à-dire que si les Corinthiens étaient parfaits, justement, ils comprendraient qu'immédiatement c'est la vraie sagesse. Et ça, les parfaits, c'est les téléioi, ce sont les ceux qui sont accomplis, achevés. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette sagesse? Bon, Paul précise, ce n'est pas la sagesse de ce monde et ce n'est pas la sagesse des princes de ce monde. Bon, il semble distinguer ici entre la sagesse philosophique et la sagesse aussi pratique. Ce n'est pas la sagesse philosophique, la sagesse de ce monde, ce n'est pas la sagesse pratique des princes de ce monde. Donc, quelle est-elle cette sagesse? Maintenant, il va la qualifier un peu dans un vocabulaire, je dis très, très spécifique. Elle est donc mystérieuse, cachée, ce qui a donné l'occasion à René Girard d'écrire son livre, des choses cachées depuis la fondation du monde. Elle est cachée, donc sous-entendu, elle est dévoilée, donc c'est vraiment, elle ne sera que dévoilée. Dévoilée, c'est le mot apocalypse. Alors, il y a un élément, à mon avis, très important, que Paul va préciser ici, et c'est presque là-dessus que je vais terminer. C'est vraiment les termes apocalyptiques qui le permettent, elle est comme une sorte de bien qui se dévoile peu à peu. Souvent, quand je parle de l'apocalypse, du dévoilement, je fais référence à l'inauguration, vous savez, d'une stèle ou d'un monument. Il y a un voile qui est mis dessus, puis on tire le voile peu à peu. Et puis le monument apparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est bon. Alors, le monument, il existe. Il n'est pas créé au moment où on enlève le voile. Il est présent. Donc cette sagesse, elle est bien présente, dit Paul, dès avant les siècles. Peut-être d'ailleurs, encore une fois, faut-il entendre cette sagesse aussi, le Christ qui est aussi présent dès avant les siècles. Paul croit tout à fait à la préexistence du Christ. Et il l'a destinée pour notre gloire. Alors, il regarde avant les siècles, cette sagesse est présente, elle était au commencement, elle est aussi à la fin. Elle est destinée pour notre gloire. Alors, ici, il y a le mot destiné, par avance destiné. C'est c'est le verbe pro-orizo, oui c'est ça, c'est la dimension de prédestination qui a engendré beaucoup de difficultés. Cette sagesse, elle est proposée, mais proposée en son temps, en ses temps et moments. Je ne vais pas discuter de la prédestination, je n'aurai pas les compétences pour le faire, je l'avoue très franchement, c'est une question très compliquée. Bien que ce soit très présent chez Paul, hein, vous le retrouvez en Romains 8 aussi, lorsqu'il parle du plan de Dieu, etc., Romains 8, 28, 30. Ce qui intéresse plus ici, c'est de parler de l'économie du salut, parce que c'est présent aussi. Et les pères de l'Église en ont fait leur chou gras, avec raison. C'est-à-dire que je parle d'un dévoilement progressif, et les temps et les moments, rappelez-vous, les temps et les moments, c'est le Père qui les a fixés sa propre autorité, nous dit Saint-Luc dans les Actes des Apôtres au début. Il y a un temps pour tout, si je reprends un peu le vocabulaire de Coëlette, du livre de Coëlette. Et il y a une économie du salut. ce mystère, il se dévoile progressivement selon la capacité qu'a l'homme de l'accueillir. Alors, il dira tout à l'heure aux Corinthiens, il dira à vous, je vous ai donné le lait des petits-enfants parce que, voilà, vous ne pouviez pas en accueillir plus, mais d'autres pourront en accueillir plus. Et ça, on retrouve souvent ce rappel fondamental d'un grand dépôt qui se dévoile peu à peu sur une économie. Vous avez ça en particulier dans le, je crois que c'est le début, enfin c'est l'hymne de l'épître aux Éphésiens, qui souligne cette dimension d'économie, et le mot économie intervient, si je me souviens bien, dans l'hymne de l'épître aux Éphésiens, 1.3.14, il y a une économie du salut. Voilà, cette sagesse, elle est à la fois, et on retrouve là, elle est déjà là, et pas encore. Elle se donne dans le temps général des hommes, et dans le temps pour chacun aussi. Donc elle est au commencement, mais elle est aussi à la fin. Mais elle a cette dimension donc de dévoilement progressif, et du coup, cette dimension aussi inexorablement cachée. On est dans le paradoxe constant, justement, on est dans la logique de la croix. Tout est donné, et tout n'est pas encore là. Donc Paul continue quand même à se situer à travers cette réflexion, cette méditation sur la sagesse de Dieu, dans cette logique de la croix. Il dira, ce qui est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Alors ça, c'est du vocabulaire deutéronomique tout cru. Bon, le premier article, l'un des seuls rares articles que j'ai écrit, dans des revues spécialisées, en observation biblique, je crois que le premier portait sur ce verset. 1 Corinthiens 2,9, il y a fort longtemps. Donc c'est du vocabulaire du Deutéronome. Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. C'est cette expression particulière. Tox agaposinton theon. C'est le style deutéronomique parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire hâtez-vous de vouloir toujours cette sagesse et en même temps sachez que vous n'y entrerez dedans que progressivement. Bon, je vais m'arrêter là et tout à l'heure on va parler de la révélation par l'esprit, etc. et du rôle de l'esprit.